Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à tous, en forme ? Heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes le mercredi 15 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Et dans un premier temps, nous parlerons du premier sommet énergétique belgo-allemand. Plusieurs accords ont été signés, parmi eux une meilleure interconnexion en matière d'électricité entre nos deux pays et l'augmentation de la capacité d'exportation de gaz vers l'Allemagne. Le patron de la Fenerstahl se confie à notre micro ce matin. Il revient sur les récentes affaires qui ont secoué son entreprise et malgré tout fait état de bons résultats. C'est un quasi-inconnu, Kazuo Ueda est le futur gouverneur de la Banque du Japon. De nombreux défis l'attendent, sa nomination est imminente. Enfin, nous évoquerons les soubresauts de l'immobilier en région bruxelloise. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le Brief.
Le Brief, 7 infos, dès 7h.
Le chancelier allemand Olaf Scholz était en Belgique hier à Zeebruges pour le premier sommet énergétique de l'histoire entre nos deux pays. Le but de ces échanges, renforcer la coopération de part et d'autre et concrétiser des engagements en matière d'énergie avec comme point de départ la guerre en Ukraine et son impact sur les stocks et l'approvisionnement de nombreuses nations européennes. 4 accords clés ont été signés. D'abord, doubler la capacité de transport de gaz de la Belgique vers l'Allemagne. Depuis la fermeture des vannes russes, notre pays est devenu un passage obligé pour Berlin. Cette connexion gazière sera également compatible avec le transport d'hydrogène en 2028 au plus tard, une source d'énergie indispensable, comme explique Tin van der Straten, la ministre de l'énergie au micro de Maxime van der Weyer.
La Belgique a été stratégique aujourd'hui parce qu'on est une porte d'entrée et on veut devenir la même porte d'entrée pour tout ce qui est hydrogène belge. L'hydrogène aujourd'hui déjà est utilisé comme une ressource de base en fait dans les processus industriels et donc convertir ce hydrogène gris dans un hydrogène vert, c'est la manière la plus facile pour décarboniser nos industries. Donc, en effet, nos industries vont être le catalyseur pour l'économie hydrogène. Parce que la connexion qu'on va construire entre la Belgique et l'Allemagne en ce qui concerne le gaz, elle est prête pour l'hydrogène. Donc, c'est un investissement aujourd'hui pour aboutir dans le futur.
Mais les accords belgo-allemands signés hier portaient aussi sur l'électricité, avec une deuxième interconnexion entre nos deux pays et un accent mis sur le renouvelable.
Cette interconnexion, elle est très importante parce que l'Allemagne a ici confirmé qu'elle va investir massivement dans tout ce qui est électricité renouvelable, côté leur infrastructure, mais aussi en tout ce qui est génération d'électricité. Et donc, cette interconnexion avec l'Allemagne et la Belgique va permettre à de grandes quantités de renouvelables d'être mises dans le réseau pour aussi stabiliser le réseau.
La Commission européenne travaille depuis des années sur une nouvelle législation pharmaceutique, en consultant tous les acteurs concernés, avec pour objectif de réduire les prix des médicaments, lutter contre les pénuries et donner un accès équivalent aux nouveaux produits à tous les États membres. Mais difficile d'y arriver quand les médicaments sont protégés contre l'arrivée de leurs concurrents génériques pendant 10 ans. Alors, pour parvenir à ces fins, la Commission propose, selon des textes que nous avons pu consulter, de ramener cette période à 8 ans sous certaines conditions. Les génériques doivent être aussi efficaces que les originaux par exemple, ils doivent aussi répondre à des besoins non satisfaits. Cette mesure aurait un double effet, faire baisser les prix des médicaments plus rapidement et augmenter l'offre. L'Europe veut aussi lutter contre les pénuries et les produits qui disparaissent du marché parce que plus personne ne veut les fabriquer. Les laboratoires pharmaceutiques seraient tenus de proposer à une autre société un médicament avant de le retirer du marché. Les propositions officielles de la Commission seront présentées le mois prochain, avant de passer pour adoption par le Conseil et le Parlement européen. C'est un peu une opération transparence à laquelle se livre ce matin Julien Compère, le CEO de la Fenerstahl. L'usine liégeoise d'armement, dont l'actionnaire unique est la région wallonne, était considérée jusque-là comme la grande muette, comme l'armée. Mais le détournement présumé de 15 millions d'euros découvert il y a quelques semaines, suivi de la révocation de 3 administrateurs, et plus récemment la perte de 23 millions d'euros dans des taux de change, ça fait un peu désordre. Le patron a donc accepté de répondre aux questions de nos journalistes, François-Xavier Lefebvre et Olivier Gosset, à commencer par la nécessité de dire les choses.
Je ne suis pas là pour nettoyer l'entreprise, parce que je ne pense pas que l'entreprise ait besoin d'être nettoyée. On essaye de faire preuve de la plus grande transparence, évidemment, tout en étant dans un secteur qui reste un secteur dans lequel on ne peut pas tout dire. Et donc, moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que le groupe Erstal, c'est une entreprise saine et c'est une entreprise sous contrôle. Et la meilleure preuve qu'elle est sous contrôle, c'est que justement, on a découvert cette fraude. Et ça, je pense que c'est quand même un élément qui est extrêmement important à rappeler. En tous les cas, les mesures sont prises en interne pour comprendre et surtout tirer les leçons. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pour nous, c'est se projeter dans le futur et faire en sorte que des situations pareilles ne puissent plus arriver.
Car même si la réputation de l'entreprise en prend un coup, les affaires tournent plutôt bien, les chiffres sont bons et la Fenerstal bénéficie de commandes en raison de la guerre en Ukraine.
On était à un peu moins de 800 millions d'euros en 2021 et on devrait être aux alentours de, j'ai pas que pour le groupe, de 950 millions d'euros en 2022. Je pense qu'effectivement la société terminera en bénéfice. On peut dire donc effectivement la Belgique nous a passé récemment une commande d'un peu moins de 50 millions d'euros à destination de l'Ukraine. Et effectivement, nous sommes en discussion avec d'autres pays pour voir si ça peut se matérialiser. Toutes les volets pour la commande à destination d'armées belges seront produits ici.
L'actualité, quoi qu'on en dise, c'est toujours une question de point de vue avec leur subjectivité. Alors, pour décrypter l'inflation aux États-Unis, c'est pareil, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le mois dernier, l'inflation de l'autre côté de l'Atlantique a diminué, ça c'est le verre à moitié plein, mais moins prévu, ça c'est le verre à moitié vide. Les choses étant posées, voyons à présent les chiffres. L'inflation s'est établie à 6,4% le mois dernier, c'est 0,1% de moins qu'en décembre, mais les analystes tablaient sur 6,2%. Vous suivez ? Ils sont donc un peu déçus. Et la Banque centrale américaine pourrait donc continuer à se montrer plus ferme dans sa politique monétaire si la hausse des prix ne ralentit pas aussi vite que prévu. Une augmentation des taux est encore envisageable et les membres de la Fed surveillent de près l'inflation sous-jacente qui fait abstraction des prix plus volatiles de l'énergie et de l'alimentation. Mais les investisseurs refusent de voir en ces tendances de mauvais signes. Leur pessimisme pour les professionnels est au plus bas depuis un an. Après ces annonces, la bourse de New York a fini en ordre dispersé hier soir. L'indice Dow Jones a perdu 0,46%. Le S&P 500, 0,03%, tandis que le Nasdaq a grappillé 0,57%. La Banque du Japon se prépare à prendre un tournant majeur dans sa politique monétaire jusque-là ultra accommodante. Il se pourrait bien qu'elle agisse prochainement pour juguler la hausse des prix qui survient après des années de déflation. Et pour ce faire, un nouvel homme sera à la manœuvre au printemps. Il s'agit de Kazuo Ueda, un professeur d'économie de 71 ans qui a été désigné hier par le gouvernement nippon. Il deviendra le prochain gouverneur de la Banque du Japon si toutefois sa nomination est validée par le Parlement, ce qui est une formalité sans doute. Charles Régnier, vous êtes journaliste au service Investir de l'Écho. Kazuo Ueda, c'est une surprise au pays du soleil levant. Son nom ne figurait ni parmi les favoris, ni parmi les outsiders. C'est même plutôt un inconnu.
Exactement, c'est là où il était surprise. En fait, son nom avait tout d'abord fuité dans certains médias vendredi passé. Et ça avait franchement surpris les marchés.
Mais alors, comment décrire son profil monétaire ? Est-il plutôt colombe ou faucon ?
Alors justement, c'est la même question que se posent les marchés. A priori, selon les gens qui ont travaillé avec lui précédemment, c'est pas vraiment une colombe, ni vraiment un faucon. En fait, c'est un académicien. Donc lui, ce qu'il va plutôt faire, c'est se baser sur les données, le data. Mais de manière générale, il va devoir un minimum normaliser la politique monétaire du Japon après des années de politique extrêmement accommodante de la part de son prédécesseur.
En tout cas, Charles, une chose est sûre, il aura du travail.
Oui, il y a du travail à faire. Le Japon, en fait, pendant des années, ils avaient un niveau d'inflation extrêmement bas, voire en fait, ils étaient même en déflation. Et donc, du coup, maintenant, voilà, on a vu récemment une remontée des prix. Et donc, voilà, maintenant, le Japon n'a toujours pas, eux, commencé à remonter leur taux d'intérêt, contrairement à tous les autres pays du monde presque. Et donc, voilà, oui, il y a vraiment du boulot.
Merci, Charles. L'activité immobilière reste toujours plus soutenue qu'ailleurs en région bruxelloise, mais elle aussi a diminué l'année dernière. Tel est le premier enseignement du dernier baromètre des notaires. Les prix ont augmenté moins vite qu'au niveau de toute la Belgique, ça c'est le deuxième élément. Partant de là, pour quelles raisons les candidats acheteurs se retiennent d'acquérir un bien pour le moment et même en ce début d'année, Mathilde Ridol, notre spécialiste immobilier à l'Écho, nous répond.
Il y a un changement de régime fiscal au niveau de l'abattement qui va être porté sur une tranche un peu plus élevée à partir du 1er avril. Aujourd'hui, celui qui achète un bien avec un prix maximum de 500 000 euros peut avoir un abattement fiscal sur la première tranche de 175 000 euros, alors qu'à partir du 1er avril, ça va être porté sur une tranche de 200 000 euros et le montant sera également plafonné pour le prix d'achat à 600 000 euros. Dès lors, ceux qui signent aujourd'hui un compromis avant le 1er avril ne pourraient pas bénéficier de ce nouveau régime fiscal plus avantageux. Et donc, ils ont tout intérêt à attendre le 1er avril pour signer le nouveau compromis.
Et en ce qui concerne les prix, ils ont donc augmenté moins vite qu'ailleurs en région bruxelloise, mais aussi moins vite que les autres années.
Alors, on retient surtout que oui, les prix ont globalement continué à croître en 2022, un petit peu moins rapidement qu'en 2021 et en 2020, les années post-Covid où on avait vu vraiment une frénésie sur le marché de l'immobilier. Donc, on voit un retour à la réalité pour le marché immobilier. On peut aussi prendre en considération l'inflation qui a été très élevée en 2022, de l'ordre de 10%. Et lorsqu'on prend cette inflation en compte, eh bien, les prix ont même reculé finalement. Par exemple, à Ixelles, l'année dernière, en 2022, les prix ont reculé de 8,5%. Et inflation comprise, ça veut même dire moins 18,5%, ce qui n'est vraiment pas rien quand on considère le contexte économique actuel.
C'est une date importante aujourd'hui pour les lanceurs d'alerte. Une nouvelle loi, transposition d'une directive européenne de 2019, entre en vigueur et impose aux entreprises de plus de 250 employés de mettre en place un canal interne de signalement des dysfonctionnements. Celles qui ne le font pas sont passibles de sanctions. Les plus petites entreprises, de 50 à 249 personnes, ont jusqu'au 17 décembre prochain pour se mettre en ordre. Via ce canal interne, les employés peuvent signaler les abus dans leur entreprise de manière anonyme ou non. Il peut s'agir de sujets liés au droit de la consommation, de la concurrence, de l'environnement, la réglementation financière, le blanchiment d'argent, la protection des données ou encore la santé publique. D'un point de vue pratique, tout un chacun pourra signaler un problème via une adresse e-mail ou une plateforme qui pourra être gérée par un membre du service des ressources humaines ou juridiques. L'administrateur aura 3 mois pour répondre à l'employé. Et c'est ainsi que se termine le brief. Merci de l'avoir suivi. Rassurez-vous, nous ne mettrons pas 3 mois à vous répondre si vous nous écrivez sur nos réseaux sociaux à l'Écho ou si vous nous envoyez un message privé. Et n'oubliez pas de nous mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast, ça fait toujours plaisir. Tenez, à propos d'étoiles, sachez que Pharrell Williams, le musicien, producteur et styliste américain, a été nommé hier directeur artistique des collections hommes de Louis Vuitton pour succéder à Virgil Abloh, décédé fin 2021 d'un cancer. Laurent Fabry était à la préparation de ce brief. Pour ma part, je vous dis à demain.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.